Il se donne gratuitement pour rien par amour, et c'est là l'essentiel. Dans notre monde où l'on juge, sélectionne et classe les hommes et les femmes pour faire régner un ordre, il vient instaurer un ordre différent. Mangeant avec les rejetés, relevant la prostituée, rétablissant les exclus. Voici, j'annonce l'amour de Dieu, il vient pour nous libérer, pour nous appeler sans cesse à une vie nouvelle, gratuitement, pour rien. Et c'est en son nom que je vous dis, la grâce et la paix sont avec vous tous. Amis, frères et sœurs, c'est là tout l'évangile. Amen. Peuple, venez et qu'on entende partout votre hymne solennel. Et c'est avec des paroles qui traversent toute la Bible sous diverses formes, à tel point que l'on peut se demander pourquoi tant de répétitions, mais qu'on sait très bien que lorsqu'une règle n'est pas appliquée, ceux qui les dictent sont obligés de la répéter. D'après Matthieu et Marc. Écoutons ensemble quelle est la volonté de Dieu selon les paroles dans l'évangile de Marc. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen.
Et les jours et les nuits.
Je vous invite à vous asseoir. Et au moment de dire à Dieu ce qui nous sépare de lui, des autres, de nous-mêmes, au moment de dire notre péché, nous faisons silence et nous prions. Oui, Seigneur, il me semble que nous mettions du temps à appliquer ce que tu nous demandes, et c'est la raison pour laquelle, sans doute, tu le répètes à nouveau. Alors nous te demandons pardon parce que nous sommes trop patients et que notre patience est souvent vide d'attente et d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté. Patients à écouter ce que toi, tu aurais refusé d'entendre. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes aussi trop impatients. Et que notre impatience est souvent vide de sagesse, d'humilité. Nous sommes impatients d'être approuvé alors que toi, tu t'en remettais à Dieu. Nous sommes impatients d'arriver alors que toi, tu nous acceptes avec nos lenteurs. Alors oui, Seigneur, nous te demandons pardon.
Mais je suis faible, hélas, je crains d'être
Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque Jésus nous parle et que nous reconnaissons sa voix, Dieu se fait présence et grâce pour nous. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Chantons de joie vers le Seigneur. Et je vous invite à rester debout, ce que vous faites pour vous associer à la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous redire ton amour et nous soumettre à ta volonté. Nous te le demandons, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Permets que nous soyons capable de recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Par ton esprit, dispose nos cœurs et nos intelligences à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai assorti, je ne sais pas quelles sont les habitudes dans cette église locale, dans la mienne, nous suivons la liste de la Fédération protestante de France. C'est ici, non, c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est bien aussi. Et j'ai retenu le texte de l'évangile de Jean qui était proposé pour aujourd'hui, que j'ai assorti d'une lecture qui n'était pas proposée, qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les cinq premiers versets. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les cinq premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un poids, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. Évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume. Je m'aperçois que j'ai zappé le psaume. Ça, c'est terrible, changer d'église. Alors, on va zapper le psaume, on va continuer, on va prendre le cantique 242, au cantique 242 en entier. Frères et sœurs, mesurez-vous à quel point notre présence ici, notre rassemblement est un miracle. À quel point chacun d'entre nous est un miracle. Alors je ne parle pas de ce mot, ou je n'emploie pas ce mot dans le sens que lui donne la plupart du temps la langue française en termes d'extraordinaire et d'incompréhensible. Encore que si l'on réfléchit à tous les tours et détours, les circonstances de la vie qui ont fait que nous soyons tous réunis ici ce matin, on pourrait presque parler de miracle. Je veux plutôt employer et comprendre ce mot dans le sens que lui donne l'évangile de Jean justement, qui ne l'emploie jamais du reste. Puisque là où les autres évangélistes parlent de miracle, Jean va parler de signes. Et un signe, c'est toujours quelque chose qui renvoie à autre chose. Frères et sœurs, chacun d'entre nous est le signe d'autre chose. Notre rassemblement ici est un signe qui renvoie à autre chose. Il est le signe d'une présence. Et je vais vous dire, en tout cas essayer, de vous dire comment je le comprends. Il nous faut être reconnaissant. Des bienfaits que Dieu nous envoie jour après jour, il faut être aussi et surtout reconnaissant de ce que nous soyons capables de les discerner. Ce n'est pas toujours évident, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je le sais pour moi. Il n'est pas toujours évident de sentir, d'accepter, de reconnaître justement la trace de la présence de Dieu dans nos vies et sur nos vies, et de s'en pénétrer. Et j'aime qu'en français, ce mot de reconnaissance puisse avoir des sens multiples. J'en retiendrai deux uniquement pour nous ce matin. D'abord, vous le savez, être reconnaissant, c'est remercier. C'est dire merci, c'est avoir et exprimer sa gratitude. Un autre sens de ce mot, c'est aussi celui qui veut dire discerner, distinguer, peut-être même explorer. Et donc, pour être reconnaissant, il nous faut être reconnaissant. Je veux dire par là que pour pouvoir remercier, il s'agit de savoir qui remercier. Et il n'est pas toujours évident de reconnaître les traces et les signes de la présence de Dieu dans nos vies et de s'en pénétrer. C'est, je crois, ce que tente d'expliquer Jésus à ses disciples dans ce passage de l'évangile de Jean qui accompagne les dimanches matins de l'église de Levallois depuis le jour de Pâques. Jésus leur explique pourquoi il faut qu'ils partent. Mais pourquoi plutôt dans le sens de « en vue de quoi » plutôt que dans le sens de donner une explication. Jésus explique pourquoi il faut qu'il ne soit plus là, et pourtant, paradoxe, comment il continuera pourtant d'être présent. C'est dans ce même évangile de Jean que Jésus dit à ses disciples, « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Le court passage de la première épître de Jean, que j'ai aussi choisi de retenir pour notre méditation de ce matin, dira aussi cette façon qui nous est donnée de pouvoir reconnaître et donc d'être reconnaissant avec ce vocabulaire de l'amour qui lui est si particulier. Tout au long de ce passage d'évangile, Jean, en quelque sorte, nous prépare au départ de Jésus. En fait, je me demande si l'ensemble de l'évangile de Jean n'est pas une immense préparation au départ et à l'absence de Jésus. Il faut s'y préparer. Il faut s'y faire en quelque sorte, il faut accepter de porter le deuil de Jésus. Jean écrit pour une communauté qui a une vie compliquée. Une vie compliquée parce que divers courants théologiques la traversent. Ça tombe bien, nous nous y reconnaissons parfaitement. Une vie compliquée parce que des menaces extérieures se font de plus en plus pressantes et ça tombe bien, nous nous y reconnaissons aussi. Et puis il faut durer, il faut perdurer et continuer à porter le message haut et fort, et Jean a la bonté de penser à cette communauté, à ces chrétiens de deuxième main qu'est cette communauté pour laquelle il est écrit. Et ça tombe bien parce que nous aussi, 20 siècles après, nous sommes de cette sorte-là de chrétiens. Des chrétiens de deuxième main qui ont bien du mal parfois à témoigner de l'espérance qui est en nous. Entre le départ définitif de Jésus, malgré ou à cause de la résurrection dont cette communauté de gens, dont nous-mêmes avons quelques visions, entre le départ définitif et la venue de l'Esprit, il y a un trou, un vide, une absence. Et Jésus tient à parler de cette absence de la même manière qu'il a parlé de sa mort à venir. Et là, je me permets une parenthèse, au moment où je vous parle, j'y pense. Françoise Dolto, un jour qu'elle était interviewée par une journaliste qui connaissait très bien ses convictions chrétiennes orthodoxes, lui avait demandé « Mais pour vous, qui est Jésus ?» Et Françoise Dolto a répondu « Pour moi, Jésus, c'est le trou dans le taquin. » Vous savez, le taquin, c'est ce petit jeu qu'ont les enfants, où il s'agit de faire glisser des petites cases pour reconstituer une figure, un alphabet, une série de chiffres. Jésus, c'est le trou dans le taquin. Ça me va bien comme image de Jésus. Un trou, une absence, sans laquelle rien ne peut fonctionner et sans laquelle rien ne peut se mettre en place. J'espère reprendre le fil. Pas plus que sur sa mort, dans l'évangile de Jean, Jésus ne fait l'impasse sur cette absence, il ne veut pas tricher. Ces paroles qu'il laisse à ses disciples sont là pour les y préparer. Il faut que ses disciples prennent au sérieux cette absence, cet enlèvement d'auprès des siens, ce trou qu'il va laisser. Jésus est mort, il est parti. Nous aussi, nous en sommes là. Il est absent. Le tombeau vide du matin de Pâques va se doubler de cette absence, marquée encore plus par l'ascension auprès du Père, tel que nous pouvons la lire dans les évangiles et dans les actes. Pas de reste, pas de relique. Et finalement, c'est à mieux. Nous, protestants, qui avons tellement de méfiance envers les reliques, envers les restes sacrés, avec tout ce qui nous entraînerait vers du rituel, vers du magique ou vers du superstitieux. Mais alors, comment, dans ces conditions, comprendre ce chemin, cette vérité, cette vie dont Jean met les phrases dans la bouche de Jésus? Comment, dans ces conditions, comprendre ce que nous entendons à nouveau aujourd'hui, à savoir qu'il va disparaître? Peut-être, frères et sœurs, en comprenant qu'il en va de Jésus comme de tout mortel dont il a partagé le destin. En comprenant que sa mort est aussi marquée par la déchirure de l'absence et que la résurrection et l'ascension ne contredisent pas cela, mais qu'au contraire, chacun de ces événements redouble cette séparation. Oui, mais en disant cela, je m'aperçois que je ne fais que m'enfoncer encore plus dans cette absence, puisqu'elle redouble. Où donc alors trouver une consolation sereine et acceptable? Où donc trouver ce qui sera à la fois intellectuellement acceptable et spirituellement nourrissant, puisque ma vie va se constituer autour? Comment discerner ce qui pourra me le faire reconnaître comme présent, puisqu'il a dit à ses disciples qu'ils le verraient et qu'eux aussi vivraient? Frères et sœurs, il n'y a de croix qu'en vue de la résurrection, il n'y a d'absence de l'ascension qu'en vue de Pentecôte. Le Christ, enlevé ou sur le point de l'être, va alors parler de son alter ego, de son autre soi-même, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, comme il l'appelle. Oui, mais là aussi, comment savoir comment l'Esprit est là? Quand je ne suis pas inspiré, la plupart du temps, je le sais. Je discerne un peu moins bien lorsque je le suis et je n'ai pas la prétention d'affirmer l'être. Finalement, se poser la question de savoir si l'Esprit est là, c'est une autre façon de poser la question de savoir comment déceler la présence de Dieu dans nos vies. Avez-vous remarqué que Jésus se réjouit pour ses disciples? Parce qu'il sait que pour eux, ce sera un plus, un mieux, un progrès, en quelque sorte. Non pas qu'il soit ici question d'un appel à la performance, ni à une quelconque compétition, mais le plus, le mieux, sera que cet esprit qui était en Jésus sera dans les siens. Il est déjà dans les siens. Ils lui seront semblables. L'esprit de l'absent demeure dans les siens, leur devient comme un héritage, leur revient comme un héritage. Rien à voir, frères et sœurs, avec une réincarnation ou une immortalité. Bien loin de laisser ses disciples orphelins ou isolés, il en fait à leur tour des donateurs de vie. Il fait corps avec eux, ils deviennent son corps, corps du Christ, Église. Et là peut-être que j'entrevois une possibilité de comprendre ce en vue de quoi il est bon qu'il s'en aille. Si l'on y réfléchit un tout petit peu, il y a aujourd'hui beaucoup plus de foi qu'au temps de Jésus. Finalement, il a convaincu assez peu de gens, il en a même déçu beaucoup, il a gardé peu de fidèles, il a été trahi, abandonné par ses plus proches. Et je me dis que finalement aujourd'hui il a plus de disciples qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de monde autour de lui dans une ville d'importance moyenne qu'il n'en a jamais eu autour de lui. Et pourtant, on avait cru pouvoir casser le mouvement il y a 2000 ans. Alors peut-être que nous pouvons réentendre cette parole aujourd'hui. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Oui, chers amis, frères et sœurs, il ne nous faut pas moins que cela, pas moins que cette promesse pour comprendre que Dieu a inventé un remède à la mesure de notre inconscience, de notre lenteur à croire, de nos patiences et de nos impatiences, comme nous l'avons prié tout à l'heure au moment de la confession du péché, de notre dureté d'esprit et de cœur. Je mentionnais tout à l'heure le côté foncièrement humain de cette absence et de ce départ de Jésus. C'est vrai que tout travail de deuil passe aussi par l'accueil du souvenir, de la mémoire des disparus, de ceux qui nous ont précédés dans la vie, dans la mort. Et nous le faisons la plupart du temps en toute connaissance et en toute reconnaissance de ce qu'ils ont été pour nous. En toute lucidité, nous transfigurons ce qu'ils furent, firent et vécurent. Nous partageons avec d'autres ce que nous avons compris et reçu de leur héritage de foi, d'espérance et d'amour. C'est une façon d'exprimer et de nommer, de vivre ce que l'on appelle la communion des saints, dont le secret est l'amour, car seul l'amour peut percevoir et recevoir cela. Et nous sommes à l'aplomb des lignes de l'épître de Jean, avec ce texte entendu ce matin, parce que c'est là que réside par-delà la mort, par-delà l'absence, la vraie communion. Jésus peut partir tranquille. Son départ n'est pas un abandon. Son humanité ne disparaît que pour mieux se manifester en esprit et en vérité dans une nouvelle humanité dont nous sommes. Frères et sœurs, c'est ainsi que je comprends qu'il nous est donné de faire des œuvres de Jésus et même, comme il le disait à travers l'évangile de Jean, d'en faire de plus grandes, car il n'a que nos oreilles pour entendre ce que nous disent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il n'a que nos yeux pour rayonner de présence en nos vies, que nos bouches pour parler de lui à nos contemporains, que nous-mêmes pour les accompagner sur son chemin. Lorsque nous baptisons, nous rappelons le nom de celles et ceux que l'on baptise. Et puis, cet autre nom, celui de Dieu destiné à les accompagner chaque jour de leur vie. Pour rappeler que nous ne sommes pas des anonymes ou juste des codes-barres, mais que chacun d'entre nous est un être unique, singulier, à ce titre-là, irremplaçable. Parce que chacun de nous est connu de Dieu seul, entièrement, comme un père connaît ses enfants qu'il chérit, même s'ils sont nombreux. Et le fait de nous souvenir que nous sommes uniques, irremplaçables, c'est aussi un appel à nous rappeler que ce que nous avons à dire, à faire, à vivre, personne ne peut le faire à notre place. Il faut s'aimer, aimer les gens, aimer même ceux qu'il est difficile d'aimer. C'est comme cela que nous sommes signes de la présence de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres, parce que c'est cela qui est notre vocation. Frères et sœurs, voilà simplement le miracle que nous sommes. Reconnaissons-le et soyons reconnaissants. Amen.
réfléchis souvent aux signes de l'esprit. Je te remercie d'avoir éclairé un peu notre lanterne, mais de nous avoir un peu perdus aussi, qui nous permet de chercher ces signes de l'esprit. Mais dans mes nuits blanches, ce qui m'arrive assez fréquemment, et en ce moment, j'y réfléchis souvent. Je pense qu'il y en a beaucoup, dans le silence, dans la contemplation, dans la dignité des autres, et dans la foi, l'espérance et l'amour. J'aime beaucoup l'évangile de Jean aussi. Merci Jean-Charles de t'être déplacé de Jean-Charles Trenero, hein. Je précise, que vous connaissez pour, peut-être de nom, parce qu'il a été président de région jusqu'à 3-4 ans, je ne sais pas, ça passe vite le temps. Voilà, et qui est à Levallois. C'est une belle église avec une belle charpente en bois et des beaux vitraux. Voilà, merci d'être venu, de nous avoir laissé ce message de réflexion et puis d'espérance. Et à un moment donné, dans ta prédication, vers le milieu, là, j'ai accroché à ça. Je veux dire, voilà, tu reviendras, j'espère. On prend rendez-vous pour l'an prochain, tout de suite. Ne pars pas trop vite. Alors, je vous fais part des annonces. Cette semaine, il y a un week-end à rallonge, il n'y a pas grand-chose à dire sur nos activités, sauf que dimanche prochain, nous avons le repas du casse. J'ai vu Laurence. Voilà. Alors, habituellement, je vais à ce repas. Pour des raisons que vous savez, je ne peux pas y aller, hein, puisque je ne peux pas, prendre le métro, je ne peux pas prendre le bus, enfin bref. Je ne peux pas être dans un endroit trop fermé, trop confiné. Donc, je ne pourrai pas assister au repas. Laurent, je suis désolé. Tu diras bien des choses à ceux qui me connaissent depuis déjà des années. Tu leur diras pourquoi. Mais voilà. Mais alors, est-ce que tu as besoin de monde, etc. Où est-ce que tu en es là dans la préparation? C'est la semaine prochaine. Hein? Non, viens au micro, qu'on te voit d'abord.
Donc, bonjour. Certains d'entre vous ont donc reçu le mail. Cette année, on a pris deux repas du CASP. L'an dernier, je suis désolée, je vous avais collé les vacances scolaires. Cette année, je n'ai pas fait attention. J'ai pris le week-end de l'Ascension. Donc, on aura le 28 mai et le 3 juillet. Donc, pour ce dimanche, on a la grande chance que... Le 2 juillet, pardon. Et on a la grande chance que Simon soit au fourneau. Donc, après, il nous faudra des gens pour déjeuner avec les convives et assurer un peu de service. Je sais qu'Alice... oui, tu m'as déjà répondu aussi. Donc, il y a déjà 3-4 personnes, mais volontiers pour tous ceux qui voudront nous aider. Donc, soit le dimanche pour servir, soit la veille pour commencer à préparer déjà.
Oui, dans l'esprit des tables du CASP, on met une personne de la paroisse à chaque table pour pouvoir animer la discussion, que les gens ne se retrouvent pas entre eux, etc., pour les accueillir. Voyez, donc normalement il y a à peu près 8-9 tables à peu près, donc ça veut dire qu'il nous faudrait à peu près 8-9 personnes si possible pour avoir une personne par table, voyez. En plus il faut servir, si on les sert, hein, etc. Et puis il faut peut-être un ou deux bras un peu musclés pour faire le service d'ordre, hein, je veux dire, parce qu'à l'arrivée ça bouscule un peu, ils veulent tous se passer, même ceux qui ne sont pas invités, etc. Donc voilà, et donc c'est un peu compliqué. Et puis, quelquefois, il y en a entre eux qui se... Il y a des quelques prises de bec, ça peut arriver, donc il faut calmer ce petit monde. Voilà. Et alors, manque de peau, je ne suis pas là. D'habitude, je suis délégué à ce genre de tâches. Donc, voilà, si parmi vous, vous pouvez venir, ne serait-ce qu'au départ, par exemple, voyez, à l'arrivée, à la sortie du culte, à la fin du culte, si vous restez une heure, le temps qu'ils arrivent, qu'on fasse le tri, qu'on dise aux uns, oui, on peut vous accueillir, vous ne pouvez pas, il faudra venir dimanche prochain, vous inscrire, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, puis après, vous n'assistez pas au repas, par exemple, hein, je veux dire, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voyez avec Laurence, donc, ici, ou parlez-en entre vous pour que par mail, téléphone et que sais-je encore, ça puisse fonctionner. Voilà, ça c'est la première annonce que je vous fais. Un peu plus loin, je vous signale que mercredi 31 à 18h30, il y a une réunion de préparation à la fête de l'amitié qui aura lieu le dernier dimanche de novembre. Voilà, donc sachez-le, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Il y a des passations d'équipe, enfin, etc. Donc ça bouge un peu là. Il y a des idées aussi qui sont en chantier, donc c'est intéressant. Et ensuite, je vous signale que le dimanche 4, enfin le samedi 3 d'abord à 18h, il y a le caté pour les aînés et qu'on verra le lendemain 4 pour le culte de Pentecôte, donc l'accueil des catéchumènes dans l'église, dans la paroisse, avec certains qui ne veulent pas confirmer, c'est vraiment leur choix. Et c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui puissent dire ben non, finalement, je ne suis pas prêt, voilà, etc. Mais on les accueille quand même parce que l'église est ouverte. Évidemment, ça va de soi, et ils font partie de la communauté entièrement, on veut leur signifier, et ils viendront accompagner ceux qui confirment et qui demandent de baptême. Voilà, donc ce sera dimanche 4, à Pentecôte, et j'espère bien pouvoir présider le culte avec Laurent Gagnebin, si présent. Voilà, et puis on sera aidé par Tadichev, le grand maître de la catéchèse des adolescents. Voilà, donc tous les trois, on va essayer de faire quelque chose, qui soit vraiment bien pour accueillir tout ce monde. Voilà. Alors, il y a des signes aussi qui sont intéressants, c'est l'offrande. Vous voyez, quand l'offrande marche bien, c'est un bon signe. Et donc, j'espère que vous avez bien entendu la prédication et que cette offrande sera vraiment le signe que vous avez bien entendu et reçu ce que Jean-Charles Ténéraud vous a dit. Ça marche ? Alors, je vous invite pendant ce temps de plaisir et de joie, et de partage et de témoignage surtout, je vous invite à chanter le cantique 161 en entier. Hein.
Non, on va se faire de 1, 3, 4.
Alors, pardon, 1, 3, 4, ça marche ?
Merci.
C'est bon ?
Comment te recevoir, toi qui seul es le maître, mais que nul ne peut voir. Seigneur qui fait le monde, tu vins un jour vers nous.
Vous avez l'habitude de rester debout pour la prière ? Oui ? Alors vous restez debout. Je vous invite à la prière d'intercession, la prière pour les autres. Seigneur, unis les uns aux autres, nous te prions maintenant les uns pour les autres. Nous marchons dans la vie avec nos questions et notre espérance, nos peurs et nos confiances. Parce que tu nous connais, tu sais tout ce qui en nous doit être transformé, réanimé, en nous comme dans le monde, comme dans ton Église. Alors aide-nous à nous laisser éclairer, mettre en vie et en marche, afin de pouvoir reconnaître et refléter cet avenir possible et nouveau. Seigneur, sur les chemins où tu nous envoies, ne nous laisse pas oublier que nous sommes accompagnés et que nous recevons les forces qui nous ouvrent la suite de la route. Et ne nous laisse pas non plus oublier de partager ces forces avec nos compagnons de marche, surtout lorsqu'ils se sentent épuisés, affaiblis ou découragés. Seigneur, c'est ensemble que nous te demandons de pouvoir vivre dans la continuité et la nouveauté, dans la stabilité, mais aussi dans l'accueil de l'imprévu, à la lumière de ce discernement que tu nous accordes, pour que nous puissions accomplir les tâches que tu nous confies de façon clairvoyante et confiante. Tout ça, nous te le demandons avec des cœurs reconnaissants, au nom de Jésus, ton Fils, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il vous accompagne tout au long de vos routes, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi, qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours, et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ce temps.